5, 4, 3, 2, 1.
Et voilà qu'un niveau l'équipe de Lilith Martinez est sur la piste d'atterrissage.
Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lilith Martine et les autres sur Radio Canu 102.2 pour cette toute première émission de 2018. On est trop heureuse de vous retrouver, bonne année.
Salut.
Aujourd'hui, on va vous faire une petite émission fourre-tout, aka émission papillote de la nouvelle année.
Émission papillote, c'est le plus joli.
Voilà, c'est ça. Et on ira d'un hommage à Françoise Héritier, aux actus culottes 2018, en passant par la Turquie, le Brésil, l'Iran et l'Allemagne, saupoudrés de bonne musique de meuf.
Et pour commencer tout de suite, on va parler d'une grande dame, Françoise Héritier, dont on n'a pas parlé en 2017, alors qu'elle est décédée à la fin de l'année. Je pense que ça vaut quand même le coup de redire un petit mot sur sa biographie très riche. Françoise Héritier, donc elle est morte le 15 novembre 2017, le jour de son anniversaire d'ailleurs. Elle est morte à 84 ans. Donc elle est née en 1933, elle a étudié d'abord l'histoire et la géographie. Puis elle s'est formée auprès de Claude Lévi-Strauss, quand même bien balèze, en anthropologie. Donc c'est devenu sa discipline, sa passion, sa spécialité, l'anthropologie. En 1957, elle est partie en Afrique pour mener une série d'enquêtes. Et puis dans les années 80, elle est devenue d'abord directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Puis, en 1982, professeur au Collège de France. Donc, elle a d'ailleurs remplacé Claude Lévi-Strauss. Donc, c'était une des rares femmes au Collège de France. Hein. Elles étaient deux, je crois, à cette époque. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu plus, mais c'est pas encore la parité. Mais voilà, donc elle était très écoutée par ses pairs. Et ses thèmes de prédilection, elle a beaucoup étudié les systèmes de parenté dans les différentes sociétés. Donc par exemple, le mariage ou l'inceste et les différents degrés d'inceste. C'est-à-dire l'inceste avec des personnes du même sang, mais pas que, aussi des incestes d'un point de vue plus moral, on peut dire. Enfin, plus moral selon certaines sociétés. Plutôt à la fin de sa vie, elle s'est intéressée aux grandes logiques de représentation, notamment celles du masculin et du féminin. Et c'est là qu'on trouve que c'est une personne intéressante, puisqu'elle avait quand même un discours. Elle utilisait la science un peu pour expliquer les représentations qu'on a du féminin et du masculin dans nos sociétés. Elle s'est demandé aussi, d'un point de vue historique, pourquoi on a attribué une certaine valeur au masculin et au féminin. Donc selon elle, ça datait de la nuit des temps, de la préhistoire. Elle aimait beaucoup cette période aussi de l'histoire qu'elle a étudiée. Et elle essayait de mettre en lumière ce qu'elle appelait les invariants, donc c'est-à-dire les cadres de pensée aux allures d'évidence obligée. Bon, pour dire plus simplement, c'est-à-dire un système qu'on perpétue inconsciemment. Donc, par exemple, ce qu'on appelle en fait plus communément les stéréotypes ou les clichés, voilà, qu'on va reproduire, mais parfois inconsciemment, nous-mêmes, on le fait aussi, hein, même si on est féministe, parfois il y a des stéréotypes qui reviennent malgré nous, puisque l'éducation est bien ancrée. Et ces invariants, pour elle, ne voulaient pas dire immuables. Donc, son but, c'était d'expliquer ces stéréotypes pour faire évoluer la pensée, évidemment. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle est intervenue dans le débat public. C'était vraiment une personne qui aimait bien parler qui parlait d'une manière aussi très compréhensible. Moi, j'ai vu des vidéos et c'est pas parce que c'est une anthropologue qu'on comprend rien. Parce que des fois, certains, ils ont des discours un peu obscurs. Elle, pas du tout. C'est vraiment son but, c'était aussi s'adresser à tout le monde, de vulgariser aussi un peu l'anthropologie, et c'est ça qui l'a rendue aussi intéressante. Et voilà, juste avant sa mort, par exemple, pour vous donner un exemple de, quand même, de sa participation à ce débat public, au lendemain de l'affaire Harvey Weinstein, donc ce producteur américain accusé de viol et de harcèlement sexuel, elle a déclaré que la honte change de camp est essentielle et que les femmes utilisent le hashtag MeToo d'Internet pour se signaler et prendre la parole me semble prometteur. C'est ce qui nous a manqué depuis des millénaires, comprendre que nous n'étions pas toutes seules. Les conséquences de ce mouvement peuvent être énormes. Et on est d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est un mouvement aussi qui va faire parler de lui et qui va vraiment faire changer aussi le discours par rapport à ça. Voilà, et ben pour terminer ce petit hommage à Françoise Héritier, on va écouter 7 minutes d'interview où elle parle de l'égalité garçon-fille, homme-femme, pourquoi, comment, en quoi c'est physique, en quoi c'est culturel. Et c'est une interview qui a été faite par Slate, c'est un magazine américain. Voilà, je vous laisse l'écouter.
Un beau exemple. Sortie de la recherche en psychologie ou en sciences de l'éducation, l'un se passe, c'est en psychologie, et sur la cognition et sur les comportements des bébés et sur ce qu'on attend des enfants, des bébés, ce qu'on attend du comportement des bébés. Et on fait venir des mères avec des nourrissons de 6 ou 8 mois. Vous voyez, 6 ou 8 mois. Et quand l'épreuve, c'est de mettre les nourrissons sur un plan qu'on peut incliner. Et et le bébé est obligé de ramper, soit en avant, soit en montant, soit en descendant. Et on veut savoir si... On dit au père qu'on veut savoir comment les enfants, quelle est l'aptitude des enfants à faire cette reptation. Et donc les mères s'y prêtent. On voit d'abord les enfants. Non, on demande aux. On voit d'abord les enfants sans les mères et on regarde ce qu'ils sont capables de faire. Et on s'aperçoit que garçons comme filles font à peu près la même chose, c'est-à-dire entre 20 et 25 degrés de pente, aussi bien en montant qu'en descendant. Vous voyez ? À peu près la même chose. Il y a même, à cause du biais sélectif, là particulièrement, un petit privilège du côté féminin. Elle serait plus audacieuse, notamment en descente. Mais c'est passé le hasard, ça. En gros, c'est les mêmes chiffres. On fait venir les mères et on leur dit on va faire l'expérience avec vous. C'est avec vous, c'est vous qui allez régler les planches en fonction de ce que vous pensez que vos enfants peuvent faire. Eh bien, toutes les mères qui présentent un petit garçon pensent qu'il peut faire 15% de plus qu'il n'est capable de faire, et toutes les femmes qui présentent une fille pensent qu'elle est capable de faire environ 15% de moins qu'elle est capable de faire. Intéressant, non? Bon. Sur la capacité la capacité d'abstraction. L'abstraction, où on dit que c'est seuls les garçons l'ont véritablement. On s'aperçoit que, à l'usage, c'est vrai, que les filles ferment leurs oreilles à des cours d'ingénierie parce qu'elles disent c'est pas pour nous, on n'est pas capable, les machines, ça ne nous intéresse pas. Et donc, si on leur présente un plan de machine à reproduire, elles se ferment, elles ne font pas bien le travail. Mais si on leur dit. Voilà, il y a une épreuve de dessin, voilà un modèle, et vous allez le reproduire, la même machine, et vous la reproduiserez bien. Mais on leur a dit que c'était du dessin, et pas une machine, pas de l'ingénierie. Donc, c'est donc bien dans la tête et uniquement que ça se passe, parce qu'on les a dressées elles-mêmes à croire qu'elles n'en étaient pas capables. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence. Entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que la toute première, qui est la différence de sexe. Bon, la différence sexuée qui fait que les corps sont différents. Et qu'il s'ensuit toute une série de transformations physiques, pileuses, de la voix. bon, des gestes, etc., la manière de marcher, en fait, toutes sortes de choses qui sont, de tenir son corps, et qui ne sont encore que là déjà, il y a beaucoup qui passent par l'éducation, mais qu'il y a des données qui insistent sur cette différence qui existe entre le fait d'être mâle et le fait d'être femelle. Mais que cette différence porte également, cette fois-ci, sur des attributs qui sont de l'ordre de la cognition ou de l'émotion, non. Parce que sur le plan de la cognition et de l'émotion, nous sommes dotés des mêmes pouvoirs. Nous avons les mêmes capacités. De même que nous avons les mêmes organes internes. On ne fait pas de différence entre un cœur, des poumons, un intestin, son fonctionnement pour les hommes et pour les femmes. Mais on voudrait qu'il y en ait un du côté cérébral et du côté émotionnel. Dans les deux cas, non, on ne trouve pas cette différence. Elle a été cherchée partout, du côté cérébral, dans le poids du cerveau, ce qui est une totale erreur, dans l'organisation des circonvolutions, dans le passage entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On le cherche maintenant au niveau des synapses, enfin, on ne l'a jamais trouvé parce qu'il n'existe pas. Ce qui existe, c'est des hormones qui influent sur ce développement particulier des corps, mais qui ne sont pas suffisantes pour induire ni des idées, des intellects, ni des émotions radicalement différentes. Parce que par-dessus tout ça, agit nécessairement le libre arbitre. Ce qui est propre de l'humanité, c'est la capacité de penser, de choisir, de sortir, de réfléchir, d'avoir une idée prospective sur sa propre vie et surtout d'avoir du libre arbitre. Nos émotions, nous pouvons les contrôler. Bon, quand nous les laissons, leur laissons libre cours et qu'on les encourage, on crée des modèles. Si vous dites aux petits garçons que c'est bien de se battre à coups de poing, ils se battront à coups de poing. Et si vous dites aux petites filles que c'est mal, elles ne le feront pas. Mais ce n'est pas une question de plus d'hormones chez l'un et de moins d'hormones chez les autres, c'est une question de dressage. L'idée n'est pas de vouloir uniformiser. C'est une des grandes méprise sur cette question, c'est de penser que l'égalité voudrait être l'indifférenciation. L'égalité, pour moi, ce n'est pas l'indifférenciation, c'est la capacité de pouvoir partager les mêmes choses, que ce soit des tâches, des émotions, des activités, etc. Pouvoir partager les mêmes choses et avoir la capacité de regarder toutes les tâches, celles qu'on est capable d'accomplir comme celles qu'on n'accomplit pas soi-même, comme ayant le même intérêt et la même valeur. C'est parce qu'il y a dans la hiérarchie actuelle quelque chose qui touche au dénigrement. Toute hiérarchie implique le dénigrement. Il ne faudrait pas que je dise que seulement la hiérarchie actuelle, toute hiérarchie implique une forme de dénigrement de ce qui est en dessous et d'exaltation de ce qui est en dessus, d'exaltation ou de haine. Si vous regardez le mouvement des sentiments ascendants et le mouvement descendant, dans le système des castes, par exemple, en Inde, eh bien, quand on est en bas, on hait ceux qui sont en haut, et quand on est en haut, on dénigre ceux qui sont en bas. Bon, ben, vous avez toujours ce type de rapport. Et arriver au moins à supprimer ces effets délétères de la hiérarchie par l'égalité et faire en sorte que faire la vaisselle, s'occuper des enfants ne soit plus considéré comme une tâche subalterne pour ne pas rester que dans les activités au sein d'un couple.
Time.
Vous êtes toujours sur Radio Canu. J'étais un peu perturbée par une anthropologue qui vient d'arriver dans nos studios. Justement, on parlait de Françoise Héritier. Mais elle est là juste pour écouter aujourd'hui. Peut-être un jour, on l'interviewera. Vous avez entendu Françoise Héritier en interview. Et ensuite, c'était suivi de la chanson de Leslie Gore, You Don't Owe Me. La chanson des années 60, donc l'époque où Françoise Héritier est devenue chercheuse. Pour continuer cette émission papillote, nous allons aborder les actualités internationales avec d'abord la Turquie. Que se passe-t-il en Turquie, Zera ?
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un scandale assez récent qui a éclaté en Turquie. Et après, d'un mouvement de femmes brésiliennes contre les restrictions des avortements. On commence avec la Turquie. Et il y a 3 jours, la direction turque des affaires religieuses, une institution très puissante en Turquie, une petite note, ironiquement, dans la constitution de la Turquie, c'est écrit que la République turque est un pays laïque. Du coup, ils ont publié un dictionnaire de termes religieux. Dedans, il y a une partie qui explique la définition de mariage. Je cite, « Une fille à partir de 9 ans peut se marier et tomber enceinte ». Cette phrase, lourdement critiquée par l'opposition et par des ONG ces derniers jours, il y a eu plein de manifestations des associations féministes et de mères qui disaient « Laissez nos filles tranquilles ». Même les électeurs de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, ont dit que c'était exagéré, qu'il fallait arrêter ça tout de suite. Enfin, hier, la direction turque des affaires religieuses a supprimé ce dictionnaire de leur website. Il est intéressant de dire que Daesh a la même loi inspirée par les charia. Filles peuvent se marier dès l'âge de 9 ans. Filles doivent rester derrière des portes fermées. Et il ne faut pas corrompre les filles par le travail.
Surtout pas.
Ouais.
C'est vraiment le truc qui nous corrompt le plus en général. Hein.
Ouais. En conclusion, on peut dire que la Turquie est prête à accepter les règles de la charia, ce qui en fait un précédent très grave et très triste. Là, il y a quelques jours en Turquie, un enseignant a dit sur Twitter que dans son école, quand les jeunes étudiantes se mettent en jogging, ça l'excite. Qu'un professeur puisse penser à ça représente une évolution tragique des mentalités. Et au Brésil, en novembre 2017, il y a quelques mois, des milliers de femmes ont manifesté pour dénoncer un projet de loi interdisant l'avortement. L'OMS estime en effet qu'un million d'avortements clandestins ont lieu chaque année dans le pays. Alors que le Brésil n'autorise l'avortement qu'en cas de grossesse issue d'un viol, de danger vital pour la mère et d'une encéphalie de fœtus. Les femmes brésiliennes disent avec le slogan « C'est notre corps, c'est à nous de choisir pour la vie des femmes ». Une femme de 36 ans ajoute que « Aujourd'hui au Brésil, une femme meurt tous les 2 jours des conséquences d'un avortement clandestin et la clandestinité tue ». Hier, le New York Times publie un article qui s'appelle « Brazilian Women Break Taboo to Talk About Illegal Abortions ». Les femmes brésiliennes cassent le tabou pour parler des avortements illégaux. Dans l'article, il y a quelques témoignages de femmes qui ont avorté. Il y a aussi quelques statistiques, par exemple, entre 400 000 et 800 000 femmes avortent chaque année au Brésil. Et la majorité des femmes le font clandestinement. Et plus de 170 femmes, incluant des actrices et directrices universitaires, ont signé une déclaration publique afin de dire qu'elles ont avorté même si c'était illégal. Aujourd'hui, il y a toujours des manifestations et des pétitions contre les prochaines restrictions au Brésil. Enfin, quand je parle de tout ça, je me rappelle de l'image d'une femme de 70 ans à peu près, avec un pancarte qui dit « I can't believe I still have to protest this fucking shit. » Je ne peux pas croire que je dois encore manifester contre cette merde. Et maintenant, on va écouter Lily Allen qui va dire « Fuck you ».
Pour conclure.
your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Continuer ces actualités internationales de ce vendredi 5 janvier. On est le 5 janvier, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on est en quelle année déjà ? 2018. Nous allons aller en Iran. Alors en Iran, les choses bougent un peu. Sachez que le 28 décembre, la police de Téhéran a annoncé que ceux qui ne respectent pas le code vestimentaire islamique ne seront plus conduits dans des centres de détention et aucune procédure judiciaire ne sera intentée contre eux. Formidable, ça veut dire que les femmes peuvent sortir sans voile. Donc c'est quand même une grande avancée. Bon, pour l'instant, c'est juste à Téhéran et c'est la police de la ville qui a annoncé ça. Mais on peut espérer peut-être que ça va un peu aller dans ce sens-là. Et peut-être juste pour rappeler que donc depuis 1979, les lois restrictives imposées par les mollahs interdisaient aux femmes de sortir sans voile ou avec des vêtements trop moulants. Donc tout à l'heure, tu parlais de la Turquie et des jogging. Voilà, ce serait dommage qu'en Iran, ça bouge un peu et en Turquie, ça recule. Donc on va espérer que ça aille un peu dans ce mouvement-là. Et d'autres choses aussi qui font penser aussi que ça bouge un peu en Iran en ce moment. Il y a eu des manifestations il y a quelques jours. Alors beaucoup d'étudiants, mais aussi des travailleurs, des hommes, des femmes. Il y a eu une vingtaine de morts dans plusieurs villes de province, puisque le gouvernement a réprimé ces manifestations. Alors c'est surtout dû à l'augmentation du prix de la nourriture quand même. C'est en général, hein, les manifestations, c'est souvent une raison économique, mais aussi évidemment pour les libertés, donc notamment la liberté des médias. Les journalistes en Iran ont des grandes restrictions, donc ils ne peuvent pas circuler facilement. Et aussi les réseaux sociaux, qui sont utilisés beaucoup par la population, et ces réseaux sont bridés par le pouvoir. Depuis 2009, l'application Telegram est utilisée par quelques 40 millions d'internautes en Iran. Donc c'est une application qui est typique iranienne en fait, Telegram, voilà, comme le Facebook iranien. Et cette application, elle a été, en fait, elle est utilisée pour plein de choses. Donc il y a une chercheuse, Masha Alima Mardani, qui explique notamment que l'application sert à faire ses achats, rester en contact, suivre le trafic, la météo, les infos. Et évidemment, depuis le début des manifestations, c'est une application qui sert aussi à s'organiser et à passer des infos. Donc les responsables politiques ont interdit le site, ils l'avaient déjà fait il y a quelques années pour une autre manifestation, et c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à la population. Donc là encore, on peut penser que les gens vont manifester encore plus. Il y a un journaliste aussi qui a dit une chose intéressante, je vais vous lire un extrait. Il dit « Telegram, avec sa fonctionnalité de chaîne publique, a remplacé les sites web, les forums, les mails, les chats, les blogs et même les médias sociaux en Iran, simplement parce que l'État a bloqué la plupart des plateformes d'information et de publication. C'est leur faute si Telegram a presque le monopole médiatique total dans le mouvement hashtag Iran proteste. » Voilà, donc c'est un peu un cercle vicieux. Hein. Donc le gouvernement ne veut pas que ce réseau social prenne trop d'importance et en même temps, il n'y a pas d'autre possibilité pour communiquer, donc évidemment on l'utilise. Et donc je vous parlais de cette chercheuse Masha Ali Mardani, qui est spécialisée dans tout ce qui est réseaux sociaux internet, et elle était présente dans un autre événement. Donc là on va voyager un peu et aller en Allemagne. Vous entendez les pages du journal que je tourne, hein, parce que je fais ça en direct. Et en Allemagne, il y a eu en décembre un rendez-vous de hackers qui s'appelle Chaos Communication Congress. C'était la 34e édition. Et donc, c'est une sorte de grande foire où on peut apprendre à crocheter des serrures, mais aussi à se protéger sur Internet. Et c'est un rendez-vous qui est assez intéressant. Et cette chercheuse iranienne, c'était justement pour elle l'occasion d'expliquer ce réseau social iranien particulier, Telegram, et aussi la politique d'interdiction dans son pays par rapport à ce média. Mais donc ce rendez-vous de hackers, il est bien, mais il est aussi critiqué cette année par des féministes qui ont reproché à ce congrès à plusieurs reprises un manque de réactivité en matière de prévention du harcèlement et des violences. Voilà, donc les plus grosses critiques, évidemment, c'était le fait qu'on ne parle pas beaucoup du sujet du harcèlement, du cyberharcèlement notamment, où dans lequel il y a souvent des femmes, quand même plus souvent des femmes qui sont visées. Et aussi l'autre critique, c'était que ces super hackers ou ces personnalités masculines de ces milieux-là sont aussi parfois accusées d'agressions sexuelles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans tous les milieux. Dès qu'il y a un peu de pouvoir et de domination, on va retrouver ça. Et voilà. Et donc à l'issue de son exposé sur le net iranien, la chercheuse dont je vous parlais, iranienne, là, Ali Mardani, elle a évoqué le sujet en se disant peinée, déçue et en appelant à faire mieux en 2018. Voilà, ça c'était les actualités internationales pour début 2018.
Par Marrakech, car en France c'est grave la dèche. On cherche tous à faire de la moula, faut que je me bouge de BVS. Donc avec moi je ramène mon gabouna. J'suis toujours à la furebeu, j'suis toujours dans la queue. Depuis que t'as entendu mon débit, bizarre mon gars, vas-tu ne jacques plus. J'prends toujours parti pour mes potes. Mais là mon gars t'abuses, à chaque nouveau couplet je les chope comme mon gars va MOH la ruse. Mehdi Benadja, dealer, tous les chemins mènent à la S-ROM. Ils aimeraient tous rapper comme moi, donc jusqu'en cabine ils m'espionnent. Si t'arrêtes de rapper, en vrai c'est un mal pour un bien. Les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Siana c'est khatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Harbi sont tous hal cette année, j'ai en tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. question imprécise. Oh oh oh. C'est acide, à une leçon de feu ils assistent. Chaque freestyle, je les attriste. Je suis validé par Hafid, Sanya, dealer. On ira jusqu'au sommet. J'ai plus le temps de déconner. Faut que je mette un terme à tous mes projets. Hein, j'en mets vite la pression. Ray, pose pas trop de questions. Si tu veux que je fasse impression, faut qu'il y ait mort comme un gesson. Hein, Siana, c'est Khatar. Je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure. Sinon, on prendra ta part. Mes Harbi sont tous al cette année. Je viens tout graille, histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année, je vais être fort tout comme le drapeau algérien. Mon son, c'est de la frappe comme le pilon marocain. Les rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, dans Lilith Martine et les autres. Et c'était Siana, la chanteuse Siana, qui est une jeune rappeuse de 20 ans. Et c'était son titre Siana Rabika. Voilà, c'est une jeune rappeuse française, noire, une femme. Et c'est très rare dans l'industrie du rap. Donc du coup, on avait envie de passer sa musique.
Du rap français, quoi.
Du rap français, ouais. Et depuis les années 2000, avec Diams, qui a un peu ouvert la voie et qui a eu un succès énorme, c'est quand même pas la folie niveau rap féminin. Donc voilà, on avait envie de passer cette musique. Et nous allons tout de suite ouvrir une petite rubrique Q aujourd'hui. Oui. Youpi, ouais.
Parce qu'en 2018, on continuera de baiser, bien sûr.
Voilà. Et 2018, c'est l'année du clit. Alors, quand je dis clit, bien évidemment, je parle du clitoris. Aka, ce truc qu'on découvre toutes plus ou moins tardivement, vu que personne nous en parle à l'école, alors que c'est quand même le seul organe de l'être humain uniquement dédié au plaisir. Il y a quand même un manuel de SVT sur 8 qui parle de la présence du clitoris dans le corps féminin.
Cette année.
Et oui, et quand je dis un manuel sur 8, c'est uniquement depuis cette année. Parce que 2018 commence plutôt bien pour notre cher Clito, puisque les éditions Magnard ont redessiné l'appareil génital féminin dans un manuel scolaire de SVT, en incorporant enfin et en dépeignant entièrement le clitoris et la vulve. Alléluia, mes sœurs et mes frères, car jusque-là et dans tous les manuels scolaires de classe de 4e, eh ben, ces deux éléments, ils étaient dessinés à part ou pas du tout représentés. Donc c'est une première étape vers la fin de cette censure clitoridienne et peut-être le début de l'explication du désir aux élèves et surtout du désir féminin, nom de Dieu. Voilà, toujours dans cette rubrique Q, est-ce qu'on parle culotte ou est-ce qu'on parle BD?
On parle culotte,
ok. Alors, parlons lingerie, et plus précisément petite culotte, mais parlons culotte, sans couture mal placée, sans dentelle qui gratte, sans petit nœud sur le devant, sans imprimé ni coloris. Non, parlons juste de culotte toute simple, comme il existe des caleçons basiques. Ça semble pas si extravagant quand même. Et pourtant, trouver ce Graal, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est l'illustratrice et autrice Julie Guillot qui en a fait elle aussi le constat la dernière fois qu'elle a voulu renouveler ses culottes. C'est une après-midi shopping décevante qui l'a poussée à se lancer dans une activité de découpe de petits nœuds. Et elle raconte tout ça en dessin sur son blog qui s'appelle « Tout va mieux ». Vous pouvez le trouver sur internet. Et c'est des dessins que vous pouvez retrouver donc, voilà, sur son blog, comme je viens de le dire. Et on va vous lire un extrait de ces petits dessins.
C'est de la BD lue à la radio, voilà. Donc il faut vous imaginer un peu les choses. Mais on a une super voix avec nous, hein, pour une super comédienne.
C'est un vrai challenge. Vous imaginez sans doute que je vais vous parler de femmes illustres et méconnues, telle une Pénélope Bagieux qui aurait tué son coiffeur. Mais je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus trivial, les culottes. Il se trouve que j'ai dû renouveler mon stock récemment. Je ne suis pas très regardante sur mes fringues, mais là, ça devenait crucial. Élastique tout distendu, forme improbable, couleur d'origine non identifiée, trous, petits bouts de fil qui sont décousus, même comme culottes de règles, ça le faisait plus. Je me suis donc traînée dans d'affreuses boutiques un jour de solde et je me suis rappelé qu'acheter des sous-vêtements féminins est un véritable chemin de délices. C'est affreusement cher, bon, faut-il le préciser, 40 euros pour 10 cm de coton, même pas bio, et il y a plus de surface d'étiquette que de slip. C'est incroyablement petit, mais où suis-je censée caser mes fesses, mes lèvres, mes poils là-dedans? Quand ce n'est pas, en plus, ajouré ou transparent. Les prétendus boxers ou shorties ne sont pas toujours plus adaptés ni confortables, hauteur minimale, échancré comme il se doit, couture centrale, sérieusement. Désolée, c'est mon shorty qui me rentre de partout.
Fais comme moi, mets des strings.
Des strings, même prix qu'un shorty avec le double de tissu ou comment te scier l'entrejambe volontairement. Je me suis souvenu que l'achat de lingerie imposait l'épilation quasi intégrale, voire la chirurgie. J'ai donc cherché quelque chose qui remplisse les critères minimums de confort et qui respecte un peu mon anatomie. Mais c'était sans compter sur les imprimés petit chat, petit cœur, petite chouette, ni sur les couleurs douteuses, turquoise, corail, saumon, et pire encore sur l'indémodable petit nœud, souvent associé au petit liseré en dentelle. Ce qui signifie que tu es condamné à porter les mêmes culottes que quand tu avais 4 ans, peut-être pour toujours. Mais qui a eu l'idée de ce petit nœud, sérieux? Qui trouve ça joli? Dénoncez-vous. Des fois, il y en a même sur les côtés, la totale. Est-ce que à 80 ans, on doit encore porter des culottes avec des petits nœuds?
Attendez, vous voulez être une vraie femme ou pas?
Me dit la caissière. Mais si j'en crois la lingerie, une vraie femme a la vulve d'une enfant de 4 ans. Alors, je résiste comme je peux.
Tu fais quoi?
Je découds les petits nœuds de mes nouvelles culottes. Voilà. Et vous pouvez, c'est dommage que vous puissiez pas voir ça, mais la dernière image de cette série, c'est une petite foufoune qui tient une pancarte avec marqué Tug Life. Donc avec ces illustrations, Julie Guillot, elle met en avant l'infantilisation et la sexualisation des femmes et les normes qui s'imposent à nous à travers les vêtements et qui contraignent les corps, alors que les hommes, ils ont quand même globalement des vêtements plus confortables, plus larges, plus pratiques. Qui...
Ouais, mais des fois... Ils ont aussi moins de choix. Hein. Il y a aussi beaucoup de garçons qui en chient parce qu'il n'y a pas, beaucoup de, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de formes. Moi, j'ai plein de copains qui voudraient s'habiller un peu plus funky.
Quoi. Rayon, petit chat, petit
voilà, c'est ça, petit chat, petit hibou. Ça, ils n'ont pas, par exemple.
Moi, je veux bien troquer une culotte contre un jogging.
Donc, pour les sous-vêtements, c'est quand même particulièrement criant. Et en plus, ils sont chers, comme on a dit dans la BD. Et Julie Guillot, elle nous raconte que ça entretient clairement des complexes et des représentations stéréotypées des corps. Et nous aussi, on en a dans la culotte, bordel. Voilà. Alors, mon Dieu, panique en studio.
Tu veux y aller?
Oui, et ben toi, t'avais vu donc les. Parce que Marion, c'est notre petite jeune du groupe, donc elle est tout le temps fourrée sur Internet. Mais nous, on est un peu les vieilles, et donc on lit du papier. Donc je vais vous parler de livres papier. Voilà. Donc les livres un peu cool de, ce début d'année ou fin d'année. C'est plutôt des livres qui sont sortis en décembre 2017. C'était les très bons cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire qu'on a reçus. Donc par exemple, le livre d'Ovidie qui s'appelle Libre. Alors Ovidie, c'est l'autrice et la dessinatrice, c'est Diglé. Voilà, c'est des dessins un peu parisiens, classiques, qu'on voit souvent actuellement, là, avec des petites meufs très bien sapées. Mais par contre, des corps très différents. Il y a des blagues, des grosses, voilà, il y a tout. Et ça, c'est vraiment cool, ça fait plaisir aussi à voir. Hein. Et elle, Ovidie, c'est une ancienne actrice porno. Aujourd'hui, elle est productrice, réalisatrice, journaliste et autrice. Et en faisant des recherches sur elle, j'ai trouvé le petit détail rigolo de sa biographie. En mai 2008, elle a remporté le titre de dauphine au marathon de la masturbation avec 26 orgasmes. Donc oui, ça existe dans le monde, il y a un marathon de la masturbation. Et donc Ovidie, elle a remporté le marathon de la masturbation. C'est pas génial ça? 26 orgasmes, bim. Voilà, en je ne sais pas combien de minutes hein, par contre. Hein. Je ne sais pas si c'était en jours ou en minutes, mais c'est rigolo. Mais bon, elle ne fait pas que ça, hein, se masturber. Elle fait aussi des bouquins. Et son bouquin, il est pas mal parce que il nous parle de la sexualité d'une manière un peu libre, drôle aussi. Et je vais vous lire son introduction parce que comme ça nous donnera une meilleure idée.
La fellation serait le ciment du couple. La bisexualité féminine serait swag. Le sperme améliorerait l'éclat du teint. La levrette lutterait contre les lombargies. La sodomie serait bonne pour le transit. Publicité, télévision, clips, blogs, porno, jeux vidéo, magazines, applications, le sexe n'a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel. Nous sommes passés sans transition d'une époque où la simple évocation du sujet était totalement taboue à une ère de glorification des performeuses. Des performances, pardon. On parle de plus en plus de cul, certes, partout, sur la place publique, mais en parle-t-on réellement mieux ? Tout autour de nous, je ne vois qu'injections et représentations ultra-normées. Ah, ça c'est sûr, nous ne manquons pas de conseils pour satisfaire notre partenaire présupposé masculin. Nous sommes inondés d'articles nous indiquant comment exceller au lit et nous rendre sexuellement intéressantes aux yeux des hommes. Mais curieusement, il est beaucoup plus rare de recevoir des encouragements à nous sentir bien dans notre culotte, c'est le cas de le dire, et libérés de tout ce qui nous oppresse et nous empêche de jouir à notre manière. Si dans la presse féminine, on nous encourage à devenir les reines de la pipe, à contrario, on ne nous invite jamais à faire un bon face-sitting. Ah ah, est-ce que vous connaissez ce terme, face-sitting ? Personne ne le connaît. Voilà, c'est le partenaire qui s'assoit sur toi et qui... Non, c'est toi qui t'assois, pardon, sur le partenaire. Voilà. Alors, remarquons également qu'on inverse que très rarement les rôles attribués à chaque genre. Si on nous explique volontiers comment limiter la douleur durant les rapports anaux, partant toujours du principe que les femmes seraient en situation de passivité, on évite toujours bien soigneusement de nous suggérer que ces mêmes rapports anaux peuvent être pratiqués sur nos partenaires masculins. En clair, on nous dit de nous enduire de lubrifiant, mais surtout pas de mettre trois doigts dans le derrière de monsieur. Comme si l'anus était genré. Alors que justement, ce qui est formidable avec cette partie de notre corps, c'est qu'elle ne l'est pas. On parle donc beaucoup de sexe, mais surtout, on n'en a jamais autant regardé. Depuis la fin des années 2000, plus de 100 milliards de pages pornographiques sont visitées chaque année sur des tubes, ces sites X gratuits construits sur le même modèle que Dailymotion ou YouTube. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, nous avons accès à une infinité de vidéos, dont la majorité d'entre elles, mais pas la totalité, représentent des fantasmes et des corps ultra stéréotypés correspondant à des schémas on ne peut plus classiques de domination masculine. Alors, avec Diglée, donc la dessinatrice, on s'est dit que plutôt que de vous proposer un énième guide censé faire des femmes des amantes parfaites, toujours contentes et cotées à l'argus des meufs super bonnes, on allait pour une fois leur foutre la paix. Au lieu de leur indiquer ce qu'elles sont censées faire pour avoir une libido au top, booster notre sexualité et autres jargons ultra-libéral déclinés à la sauce cul, on allait plutôt vous déculpabiliser. On allait vous transmettre la seule certitude qu'il nous reste en matière de sexe, que nous sommes les seuls décisionnaires de ce que nous faisons de notre corps et que rien ni personne ne devrait jamais nous dicter notre conduite.
Bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see that soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. It's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah. Give me time. I don't even stress, cause I know you mind. Haters out tryna take a smile. All these haters out tryna take a smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that knew me. Ooh, I think I like her. I might have to wife her. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah.
they don't even know. They be throwing shade everywhere. I know if you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know if you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere.
C'était I Am DDB Shade, la chanson Shade. I Am DDB, c'est une meuf de 21 ans, une anglaise qui vient de Manchester et qui fait du rap juste mortelissime. Elle a plein d'influences. Bob Marley, Nat King Cole, mais elle fait surtout du R&B. Et allez suivre ce qu'elle fait parce que c'est vraiment génial. Et les Anglais et les Anglaises et les Américaines, au niveau du rap, sont quand même bien plus en avance qu'en France. Donc bon, bah, on écoute.
En tout cas, on les entend plus.
On les entend plus, ouais.
Toi, tu vas un peu devenir notre spécialiste musique.
Bien sûr,
aussi. Et ben, c'était donc la première émission 2018 de Lilith, Martine et les autres, que vous pourrez réécouter. On croise les doigts parce que les deux dernières émissions, malheureusement, à cause de problèmes techniques, elles n'ont pas pu être enregistrées. Mais là, normalement, on l'a enregistrée. Donc vous pourrez la réécouter ou l'écouter sur le blog. Il y a aussi le super blog de Radio Rageuse, la plateforme des émissions de radio féministes francophones, avec des émissions, beaucoup d'émissions différentes, plein de sujets trop cool. Voilà, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Et donc pour cette première émission 2018, c'était un peu fourre-tout aujourd'hui. On a parlé plein de choses. Voilà, papillote, c'est plus classe. Chocolat blanc, chocolat noir. Et on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'actualité internationale. Ça bouge donc au Brésil, en Turquie, en Iran. On a parlé aussi des petits coups de cœur qu'on a lus, enfin, par rapport à des lectures. Donc, il y avait... comment elle s'appelait, l'autrice dont tu nous as parlé, là ?
Julie Guillot,
qui écrit Culotte. Ovidie, qui écrit Libre. Et il y en a plein d'autres. En ce moment, la BD féminine, féministe, elle est vraiment hyper active. Et il y a vraiment plein de trucs super. Aussi, des biographies de femmes géniales, comme Joséphine Baker, par exemple, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment, il y en a plein. Donc, si vous aimez la BD, c'est le moment. En ce moment, c'est voilà. C'est la bonne époque. 2018, c'est la bonne époque. Voilà, et ben on va vous laisser avec une chanson qui s'appelle, je ne sais plus comment.
Qui s'appelle Stealing... Non, Stealing Ship.
Ah oui, Stealing Ship, c'est un groupe de filles et qui chante
Not Real.
Voilà, et bien à bientôt, à dans deux semaines. Salut.
Au revoir.
Daytime fool you that you're not real. I just wanna know.